Bienvenue dans l'épisode numéro 6 d'une heure en série, saison 1, avec au programme cette semaine interrogatoire au cordeau et suspect impénétrable dans la série européenne Criminal sur Netflix, accident de voiture et petit secret de famille dans Pour Sarah sur TF1, et enfin meurtre sanglant et ado sadisé dans American Horror Story sur Canal+.
Une heure en série, Xavier Le Herpeur.
Et bonjour la chouette bande d'ados sadisés que j'ai réunis autour de moi pour cette émission. Comment allez-vous toutes et tous?
Bien,
parfait.
On va commencer par Ava Kahn. Bonjour Ava, comment allez-vous? Toujours au cercle sur Canal+, en clair, présenté par Augustin Trapenard et toujours l'autrice d'un excellent Game of Thrones décodé aux éditions du Rocher. Bonjour Ariane Allard,
bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien.
Toujours à Positif, toujours à Cosette et absolument, toujours en charge de la page et ciné et télé dans cet excellent journal féministe.
Merci.
Et le garçon, parce qu'il en faut bien quand même, en minorité visible évidemment.
La parité.
Benoît Lagan, alias le compteur cathodique, que vous pouvez retrouver tous les vendredis matins à 5h53 très précisément dans la chronique Fun Série dans le 5-7 de l'excellente Mathilde Munoz. Et c'est parti pour notre premier débat.
Une fois, il est resté pendant plus de 16 heures face au type avant qu'il se mette à parler. L'ancien chef, il adorait.
Il était déjà mort ?
Les tentatives de manipulation sont pathétiques. Ce type est tout sauf en train de craquer.
On va y passer la nuit.
Je veux tenter autre chose.
C'est n'importe quoi.
Je te demande pas de m'apprécier, je te demande d'obéir.
Parce qu'elle n'était pas au Bataclan.
J'y étais là-bas ! Espèce de salope de menteuse ! Je vais vous faire muter en moins de temps que vous l'imaginez.
Tu lui fais vivre un enfer, là.
C'est la procédure.
J'essaie de faire ce job en restant derrière ton miroir. Mais ça marche pas comme ça.
Il n'y a que vous qui puissiez nous aider.
Tout ce qu'on veut, c'est la vérité.
Voilà, vous venez d'entendre la bande-annonce de la série événement de la semaine, c'est Criminal, sur Netflix. Alors on va essayer d'expliquer aux auditeurs, c'est une série qui se passe dans 4 pays différents, évidemment à chaque fois de façon indépendante. Il y a une série française, une série anglaise, une série allemande et une série espagnole. Le principe, c'est un décor unique, un même dispositif, c'est-à-dire qu'on a une table, un interrogatoire, un suspect, impénétrable évidemment, mais que les enquêteurs vont essayer de faire vaciller, et de l'autre côté d'une glace en teint, d'autres enquêteurs qui essaient d'apporter des éléments à l'enquête de manière effectivement à faire triompher la vérité. Alors il y a des stars de tout pays, côté français et pas des moindres, Nathalie Baye, Jérémy Régnier, Sarah Giraudot. Au Royaume-Uni, l'excellent David Tennant, qui fut un Docteur Who inoubliable, et Broadchurch aussi, et la sublime Hayley Atwell, qui fut Agent Carter,
qui
rappelez-vous,
formidable.
Qui est formidable et qu'on a pu revoir aussi dans les films de Captain America. En Espagne, il y a Emma Suarez, Rolieta, c'est Almodovar. Et en Allemagne, bon, ma préférée, j'ai gardé le meilleur pour la fin, évidemment. Ah, génial, Nina Hoss, dont je suis terriblement amoureux. Voilà. C'est Criminal. C'est sur Netflix. Et qui commence à être pour la défense ou au contraire pour l'accusation? Ariane Allard.
Ce sera pour la défense, alors.
Eh ben, vous avez bien raison, je suis d'accord.
Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment un pur exercice de style. Et je trouve que c'est une pure réussite.
J'ai oublié de dire que c'était en temps réel ou
oui,
pratiquement.
Voilà. Hein. Pour moi, c'est un peu inégal, j'ai expliqué pourquoi, mais c'est totalement captivant de bout en bout, c'est-à-dire alors que c'est quand même extrêmement basique puisqu'il s'agit d'un face-à-face, il y a très peu de choses qui se passent à l'extérieur, un petit peu par exemple la série allemande, enfin le décor allemand, on essaye de faire sortir un peu les personnages de la salle d'interrogatoire, mais pour le reste, ça se passe essentiellement dans la salle d'interrogatoire.
Aucun flashback comme dans les séries policières.
Voilà, c'est vraiment c'est
huis clos.
C'est concentré,
unité de temps, unité d'action,
voilà.
Unité de lieu.
Ouais. Et c'est tout est basé sur les personnages, sur les dialogues et sur l'incarnation des personnages, c'est-à-dire que on est vraiment dans l'essence même du polar. Alors moi, je me suis établi un petit palmarès parce qu'évidemment, forcément,
on est obligé.
C'est exactement voilà. Ça. Nous sommes une émission de conseil.
Alors je vais évidemment, comme mon préféré, c'est quand même la série française. Je précise d'emblée que le réalisateur de la série française est suisse. Comme ça m'exonère de l'idée que je pourrais être faussement patriote. Frédéric Mermoux, qui est un formidable réalisateur par ailleurs de cinéma, qui a fait quand même déjà plusieurs films, dont un qui s'appelle Moka.
Et à qui on devait Engrenage aussi.
Engrenage également. Ouais. Donc il a quand même quelque chose avec le polar et avec le thriller et avec le film atmosphérique, d'angoisse pure comme ça, ou de tension. Pourquoi j'ai particulièrement aimé la série française? D'abord, je trouve qu'il y a un sens de l'épure qui est absolument remarquable qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres. J'expliquerai un petit peu pourquoi après.
On n'aura peut-être pas le temps, Charles.
Alors d'accord. Voilà. Donc, sinon, je trouve qu'il y a un arrière-plan historique, notamment pour le premier épisode. Je pense que s'il y en a un qu'on doit voir absolument pour chacun, en tout cas pour le français, c'est le premier.
C'est celui avec Nathalie.
C'est celui. Non, c'est celui non, c'est avec Sarah Giraudot.
Ah oui,
et
pardon.
Avec
absolument.
Et avec le Bataclan. Contexte
le Bataclan.
Parce que
moi.
C'est quand même un contexte hyper délicat. En plus, le personnage, évidemment, pas spoiler, mais c'est quand même très délicat ce qu'elle a joué, ce qu'elle a donné. Franchement, moi, j'étais scotchée par sa prestation et par la façon dont le sujet du Bataclan, qui est quand même hyper sensible,
très
et pour tout le monde, très casse-gueule et très douloureux, il s'en sort, mais remarquablement. Voilà. Je veux juste parler, donc, avant de donner la parole à mes petits camarades, celui que j'aime beaucoup aussi, c'est l'anglais, pour plein de raisons, notamment pour l'interprétation, mais vous allez certainement en parler, et pour le contexte social aussi, parce que les Anglais font ça merveilleusement bien. Et une toute petite chose sur l'espagnol, parce que c'est celui, à mon avis, qui est le plus raté. Pourquoi ? Je l'aime bien aussi, mais on est dans le soap dès le départ. Je trouve que les personnages sont un peu dans la caricature.
Ah, c'est la version britannique aussi joue un petit peu avec les codes du soap. Hein.
Ouais, mais plus l'espagnol. Et malheureusement, je trouve que comme c'est un contexte extrêmement dense, où il y a quand même essentiellement un jeu entre deux personnages, même s'il y a un tout petit peu d'animation autour, je trouve que malheureusement, les personnages sont moins bien incarnés parce qu'ils sont plus dans la caricature. Je les aime tous, hein, mais si je dois faire un palmarès, je dirais premier français, deuxième anglais, troisième allemand, quatrième espagnol.
Alors, c'est pas les jeux sans frontières. Je pense que bavarde comme vous êtes, Ariane Alain, vous n'aurez aucun problème à vous faire parler. Juste pour contextualiser pour les auditeurs, l'épisode avec Sarah Giraudot, on peut le dire, elle est accusée d'être une fausse victime du Bataclan.
Voilà. Ouais.
Bah, c'est en 45 minutes,
disons
au bout de 10 minutes, on a vite compris. Voilà, absolument. Ouais. Enfin, elle est accusée en tout cas d'avoir menti,
voilà.
Mais l'a-t-elle vraiment fait ? Évidemment, c'est toute,
ouais,
la,
toute
question
la question
de cet excellent
série.
Interrogatoire. Benoît.
Alors moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre à ceux qui ont découvert les séries grâce à Netflix qu'une série télé, c'est un formula show, donc c'est un principe comme ça d'enquête qui se clôt à chaque épisode. Du coup, il y a quelque chose que Ariane n'a pas dit, mais il y a une tentative d'essayer de créer une espèce de faux suspense qui n'a aucun intérêt sur la vie de ces personnages, de ces flics, entre les trois épisodes français, les trois épisodes anglais. Et c'est là qu'on voit la différence entre les pays pour moi. C'est-à-dire que quand on est chez les Anglais, tout d'un coup, on voit que la vie de ces flics qui vont enquêter, on peut connaître un peu leur vie par des simples regards. Alors qu'en France, on appuie, on surdialogue. On surdialogue. Et je trouve que c'est pour ça que je suis d'accord sur ce que Ariane a dit sur la série française. Elle est vraiment réussie, mais malheureusement, elle est surexplicative. Elle est surécrite.
Oh,
même si elle est dans ses thématiques assez touchantes et intéressantes, et que c'est bien qu'il s'attelle à ces sujets-là, à la fois, moi, je trouve qu'on retrouve le fait que la France décide de faire une série sociétale. Voilà. Alors que les Anglais, on prend le pur fait divers et on décrit la société à travers le fait divers sans commentaire. Et là, je rejoins sur l'espagnol, qui pour moi, mais c'est le plaisir de la série espagnole grandiloquente, pourquoi pas même dans le jeu, on se plaît à retrouver ça. Après, la série est vraiment réussie et démontre que oui, une série peut être comme une grande série, juste avec un dialogue, bâti vraiment sur le dialogue et sur un simple décor, et que ça marche.
Ariane supplie d'avoir un petit mot de réponse. Un petit mot,
oui,
Ariane.
Oui, juste dire que moi, j'ai ressenti exactement le contraire, parce que la série française est concentrée sur les personnages et sur le fait et sur l'interrogatoire, et que l'anglais, tout ce qui se passe au niveau des personnages, des interrelations, je m'en fous que l'un soit amoureux de l'autre, qu'ils aillent acheter un gâteau d'eux pour Noël, ça m'intéresse pas.
Sauf qu'il y a des relations.
C'est l'interrogatoire.
C'est beaucoup plus précis.
Il y a cette espèce d'effervescence à l'intérieur,
ça,
de l'autre côté de du miroir,
la station,
qui m'a saoulé.
Le service est généralement dirigé par une femme.
Oui.
Et donc, ça engage forcément des enjeux,
d'amour.
Non, pas forcément passionnels, c'est aussi des enjeux professionnels, ce
oui,
sont
ça,
aussi des enjeux de rivalité. C'est la screwball comédie, mais en version dramatique, quoi. Non, mais
ouais.
Ce que je veux dire, c'est que c'est très présent, c'est très tangible. Il y a effectivement des différences de traitement, de personnages, de techniques aussi, parce que c'est toute une technique, hein, pour faire accoucher de la vérité. Donc forcément, c'est une série quand même, on l'a pas dit, qui repose essentiellement sur le langage. La parole est action, le dialogue, l'échange, on est vraiment dans une partie, dans un match. Et ça, c'est assez passionnant. On a des techniques donc différentes pour faire parler ou pour faire craquer, mais c'est aussi la gestion du temps qui est différente selon les pays. Moi, j'ai l'impression le temps n'est pas du tout articulé de la même façon dans la série française que dans la version britannique. Je trouve que la britannique, pour le coup, a ça dans le sang, quoi. On joue la montre en permanence. Il y a un épisode qui est l'épisode 3 où là, c'est la thématique des migrants qui est abordée. Et ben, on est tenu par le suspense et par le temps. Je n'en dirai pas plus, évidemment, mais voilà, les sujets de société sont sont partout. Et il y a évidemment une connexion qu'on a. Alors, quand on regarde les épisodes français, oui, le Bataclan, ça nous parle. Oui, voilà. Et puis, les Britanniques vont plutôt parler du Brexit ou d'autres choses. Hein, mais tout est connecté à une actualité réelle. Absolument.
Ouais. Ce que vous n'avez pas dit, que moi je trouve formidable dans la série, vous avez réussi à vous engueuler, alors vous étiez d'accord.
Ouais.
On est bien d'accord. C'est une très très bonne série. C'est qu'on voit aussi comment la législation espagnole, allemande, française ou anglaise n'est pas la même. Et ne s'intègre pas de la même manière dans effectivement ce huis clos identique. Benoît, vous m'avez suivi.
Oui, juste un détail. Juste un détail pour dire
que
les flics, les flics qui sont derrière, donc derrière le miroir, enfin, Santin. Ce qui est intéressant, c'est que chez les Anglais, ils vont rien dire, ils vont pas commenter ce qu'ils voient, alors que les Français commentent tout. Et je trouve que c'est assez révélateur. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. Ça veut dire que c'est vraiment deux approches différentes. Les Français ont besoin de tout commenter, alors que les Anglais ont juste à montrer.
Mon Dieu. Autant d'adrénaline pour être tous d'accord. C'est quand même assez exceptionnel. Un peu de musique pour calmer tout le monde. Blues rock américain signé Black Keys. Le titre, c'était Sit Around and Miss You, extrait de leur nouvel album Let's Rock. Et bien sûr, c'est la playlist de France Inter.
France Inter. Une heure en série.
Et c'est l'heure de la petite pépite inédite, c'est-à-dire une série qui n'est pas encore diffusée sur les chaînes françaises. Mais on croise les doigts, bien évidemment, et j'espère que l'enthousiasme que nous apporterons à la défendre convaincra quelques acheteurs de chaînes. Je vous recommande David Makes Man sur OWN, Oprah Winfrey Network. Nous sommes dans le sud de la Floride. David vit avec sa mère et son petit frère. C'est un enfant précoce, lucide, doué, mais qui ne se remet pas de la disparition de son mentor. Mentor peu fréquentable, puisque c'était un dealer, craint de tous, mais qui lui servait de père de substitution. Seul désormais, David doit choisir entre la rue et le lycée. C'est une superbe série de 10 épisodes qui se déroule dans ces banlieues ghetto pavillonnaires où il faut au moins 4 bus pour les aux enfants pour aller sur leur lieu de scolarité. Donc ils se lavent à 6 heures évidemment, prennent bus après bus pour pouvoir aller choper un tout petit peu de scolarité. Série qui dit la ségrégation contemporaine, le poids du déterminisme dans ces ghetto, hein, effectivement, où, comme vous êtes noir de préférence, vous aurez droit soit à la drogue, soit à la prostitution. C'est une série qui raconte la solitude de l'adolescence, la violence faite aux gens différents, le culte de la violence, mais aussi de l'hyper-virilité. Pour tenter de s'en sortir, pour refuser la logique du trafic de drogue, David va devoir faire des sacrifices et surtout s'accepter tel qu'il est. Vous aurez un peu reconnu dans ce résumé la patte de son scénariste, c'est Tarell Elvin McCraney qui avait signé le scénario de Moonlight, pour lequel il avait reçu un Oscar. Et évidemment, on imagine qu'Oprah Winfrey est très sensible à ce regard sur la communauté afro-américaine. Et parmi les interprètes, dans le rôle-titre principal, le très jeune et super prometteur Achille McDowell. Ça s'appelle David Makes Man et c'est sur OWN pour l'instant. Et maintenant, c'est notre deuxième débat pour Sarah. Alors, nous sommes dans le sud, à Perpignan, et tout commence par un accident de voiture. C'est drôle, c'est exactement le début d'une série qu'a diffusée TF1 il n'y a pas si longtemps, qui était Le Temps est assassin. Ben, on l'a compris, c'est sur TF1. Depuis le 26 septembre, et dans la voiture qui carambole la nuit, il y a deux jeunes ados, Cédric et Sarah.
Bah, t'es là, je suis cherchée partout. Viens, je te montre un truc. Regarde ça.
Quelle incroyable, ouais.
Tu peux nous prêter les clés ?
Allô ?
Luc, c'est Cédric et Sarah, ils ont eu l'air d'accident.
D'après les premières constatations, ils roulaient très vite, sans ceinture de sécurité. Pourquoi ils ont pris la voiture ? Pourquoi ils ont fait une sortie de route si aucun des deux n'avait bu ?
Ma fille dans le coma, putain !
J'ai pas voulu tout ça, moi non plus. Mais je dois protéger Cédric.
C'est bien vous qui avez envoyé ce SMS de menace à Sarah ?
Dis rien, même pas Cédric.
Rien.
Tu vas leur montrer à tous. C'est toi la plus forte.
Ça te dérange pas, toi, que Sarah soit la seule à payer ?
Si c'est pas juste un accident, je veux savoir de quoi il en retourne.
J'ai besoin de toi.
Alors, accident ou tentative d'assassinat, les zones d'ombre sont nombreuses. Un corps a été déplacé, on a retrouvé des traces d'impact violent sur la carrosserie de la voiture et des indices révèlent l'existence d'une autre personne à bord de la voiture lors de l'accident. Un thriller sur fond de secrets de famille, connaissons-nous nos parents, connaissons-nous nos enfants, tout un puzzle arachnéen à reconstruire. C'est l'adaptation d'une série québécoise, Benoît va nous en parler dans quelques instants, adaptation signée d'ailleurs par la créatrice de l'original, Michelle Allen. Un seul réalisateur Frédéric Berthe pour l'ensemble de la série. Et je le rappelle, c'est sur TF1 depuis le 16 septembre. Benoît, vous connaissez les séries québécoises comme personne, donc vous êtes à même d'ouvrir le débat sur cette adaptation.
Alors, moi j'ai plutôt bien aimé l'adaptation de TF1, mais connaissant la version québécoise, du coup, j'avais un regard un peu particulier sur cette version, parce que la version québécoise dure 10 heures, là on est sur 6 heures, et donc du coup, on a cette série qui est ramassée en 6 heures et qui, en 10 heures, permet de développer autre chose qui manque pour moi dans cette version française, et je vais y venir. Ce que j'ai plutôt bien aimé déjà, c'est qu'on est sur une série sur TF1, le jeudi, en première partie de soirée. Les téléspectateurs de TF1 ont vu Demain nous appartient, ont suivi le JT, et ils tombent sur Pour Sarah. Du coup, ils se retrouvent en terrain un peu connu, parce qu'on retrouve un des comédiens qu'on peut voir aussi dans Demain nous appartient. Ils sont dans cet univers-là, et là, TF1 leur propose une histoire qui va au-delà de la simple enquête. Et c'est peut-être là où, pour moi, la série manque quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a cette enquête autour de « Mais alors, pourquoi cet accident ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» etc. Et donc ça, on a vraiment envie de suivre. Et moi, j'ai eu envie de suivre jusqu'au bout la version québécoise et aussi la version française. Sauf que ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est les parents, les réactions des parents, la réaction des enfants, comment ils vivent avec ça. Et c'est ce qui manque un peu dans cette version française, c'est le côté finalement drame familial qui est pas assez exploité à mon goût, préférant préférant juste les rebondissements de savoir. Non, le drame familial sur comment on vit l'accident de Sarah, comment elle va pouvoir s'en sortir, de comment on va vivre avec. Non, parce qu'il y a toute l'enquête,
il y a toute l'enquête. Intrigues qui juxtaposent.
Voilà. Et pour moi, si on est plus dans, si on accepte le mélo vraiment, est-ce que ça peut raconter de la vie familiale, alors on arrive à quelque chose
Sauf
de réussi.
Sauf que ça joue carte de l'hybridité, effectivement, ce chausser à la fois un mélo, à la fois un polar, c'est un peu un soap, hein, aussi, voilà. Donc, on a différentes intrigues de différentes natures et de différents calibrages qui se juxtaposent. Comme vous le disiez, les causes et les conséquences de l'accident, les pistes couvrent l'enquête, puisqu'il faut combler les trous de mémoire, voilà, des accidentés, puisque, on va remonter le fil des événements de cette soirée, épisode après épisode.
Ah, c'est bien la musique dans les séries françaises.
Voilà, hein.
Qu'est-ce que ça aide?
on va aller de découvertes pas très surprenantes en découvertes pas très surprenantes. Et puis, voilà, désolé. Mais, et puis, il y a aussi ce truc de jouer absolument aussi avec les sujets de fond, les sujets de société. Et alors là, c'est la jeunesse, la boisson, la conduite, la drogue qui circule dans les soirées, le GHB, les agressions sexuelles, la irréputation. Ça fait un petit peu série fourre-tout. Je trouve que c'est faussement moderne, un petit peu cheesy. Et évidemment, il y a ce casting un peu clignotant, ces vedettes du grand et du petit écran. Ils font ce qu'ils peuvent un peu tous avec des personnages qui manquent, je crois, de finesse. C'est l'écriture qui pose problème. Et juste une dernière chose, il y a un tic de mise en scène qui me gêne, c'est ces plans là aériens, ces plans drones sur les paysages en permanence, sur un peu tout. Ça fait spot publicitaire, ça ne sert strictement à rien. Et c'est une façon, encore une fois, de faire digresser le récit. Ça feuilletonne trop dans le feuilleton, quoi, pour résumer.
Alors, comme nos auditeurs nous reprochent parfois d'employer des mots anglo-saxon, cheesy, c'est coulant,
oui,
mielleux, voilà, guimauve.
Mais c'est le genre, enfin, c'est
le genre. Je ne vous ai pas du tout donné la parole, mais semble-t-il, mais je m'en fous, l'autocratie passera un autre jour.
Non, mais c'est déjà tellement tire-larme tout ça qu'on n'avait pas besoin de violon, c'est vraiment...
Pouvez-vous laisser la parole à l'excellente Ariane Allard? Merci, Ariane, avocat de la Défense.
Plutôt.
Bah, très
et
bien.
À ma grande surprise, je dois le confesser.
Confesser ma fille, confesser.
Voilà, j'ai trouvé que ça, en fait, il tient son contrat, tout simplement. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment ce qu'on appelle une série grand public.
Formatée.
Relativement formatée, mais qui tient aussi, il y a quand même une forme de suspense. Il y a des comédiens, je trouve notamment les comédiens adultes. Je suis un petit peu moins enthousiaste pour les plus jeunes qui tiennent vraiment bien la route.
Horatica.
Audrey Dana. Voilà. Qui a un personnage quand même extrêmement difficile parce que c'est vraiment la mère qui pleure du début jusqu'à la fin. Et je trouve qu'elle arrive à donner une certaine subtilité et une certaine sensibilité à son personnage qui n'était pas gagnée d'avance.
Et Sarah joue bien, enfin, Eden voilà. Courant est plutôt...
Alors moi, je voudrais dire bien. Un truc qui m'a quand même beaucoup intéressée et qui, à mon avis, fait que c'est pour ça que ça aussi, ça fonctionne, c'est que vous savez bien que les séries racontent des choses, mais elles montrent aussi des choses en creux. Et moi, je trouve que ça parle d'un truc qui est très fort et très actuel, très contemporain, qui est la relation parent-enfant aujourd'hui. Je sais pas si vous avez remarqué, mais toutes les familles sont des familles qui sont nucléaires, c'est-à-dire c'est soit papa, maman et un enfant unique, soit maman et un enfant unique. C'est-à-dire que tout est rétréci, tout est concentré et qu'il y a une espèce de surinvestissement affectif des deux côtés qui fait aussi, je pense, que ça marche aussi de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on est dans le désarroi côté enfant parce qu'il y a une espèce d'amour écrasant qui fait qu'on est obligé de mentir. Mmh. Et c'est ça le côté, mais ces enfants, ces adolescents ont une double vie, c'est très curieux. Et aussi un désarroi du côté des parents qui sont persuadés que cette fusion, c'est un succès, une réussite absolue. Et qui se rendent compte qu'en fait, que leurs enfants leur échappent. Et je trouve que ça, même si c'est peut-être pas forcément ça au départ, le sujet principal, je trouve que par ça, ça raconte quelque chose d'aujourd'hui qui, moi, me touche. Et comme ce sont quand même des séries qui jouent sur le principe de l'identification et de la projection, je trouve que ça fonctionne aussi comme ça. Ils ont réussi à capter un truc de l'air du temps, et mine de rien, je trouve que c'est bien joué.
C'est une série qui va parler à tous les publics, et c'est ça aussi la force d'une série de TF1, c'est de pouvoir toucher tous les publics, comme on regarde un soap ensemble, parce qu'il y a toutes les catégories de personnages qui sont présents dans la série. Et c'est ça qui est vraiment réussi dans une série du jeudi soir pour TF1.
Mais on sent un peu qu'on est sur TF1, on a un quart d'heure final d'un moralisateur
très béni, ça fait
c'est
un petit
longtemps.
Peu bon.
Je vous rappelle que c'est moi qui présente l'émission, et donc c'est moi qui ai le mot final. Je vous remercie par avance de vous en souvenir. Un peu de musique.
Dans l'univers, il y a des milliards de vies. Sur Terre, 7 milliards d'êtres humains. Peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux.
T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis tata par le vice, mais c'est toi que je veux.
Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Y'a des milliards de vies sur Terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais des choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sait pas.
Thank you. Et même si notre amour raté devait renaître demain, elle m'a dit jamais je ne remettrai mon cœur entre tes mains. Jamais, jamais, n'oublie pas que quand tu l'avais, tu ne m'as laissé que du mal-être et des marques. On était jeunes, on pensait que s'aimer c'était se traiter mal. Pourtant dans l'univers y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles. Mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble. Dégoûte, on se combat jusqu'à ce qu'on bouffe les pissenlits. Notre couple succomba, ce désir puissant puis s'ennuie. Et le désir disparaît en même temps que la possession. Et les femmes de ma vie défilent en une étrange procession. J'y passerai seul la nuit sous le trait d'un jeune homme qui, quand la lune dort, le soleil lui, moi je ne vois qu'elle. Y'a des milliards de vies sur terre, 7 milliards d'êtres humains, peut-être 3 milliards de filles, mais c'est toi que je veux. T'es obsédé par le vide et je déteste ton mode de vie. Et puis t'as ta part de vice, mais c'est toi que je veux. Y'en a plein, mais y'en a qu'une, c'est toi.
Je sais les choses que tu ne sais pas.
Je sais qu'on serait même pas heureux ensemble.
Nous sommes de ceux que la rancune sépare.
Nos cœurs unis par cette danse que ta lumière peut apprendre à mon ombre. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom. Un jour tu me donneras ton oui et tu prendras mon nom.
Voilà, c'était le duo Nekfeu Vanessa Paradis dans l'univers. Le rap d'un côté, la voix unique de Vanessa Paradis, près de 20 millions d'écoutes déjà recensées sur les différentes plateformes. Donc c'est un tube et donc c'est sur France Inter et donc c'est dans la playlist bien évidemment.
France Inter, une heure en série.
Et c'est l'heure de l'effet miroir. Merci Benoît d'avoir imprimé votre chronique plus petit la prochaine fois.
D'accord.
Encore, hein, parce que là je pense que je vais réussir à deviner. Alors, Xavier, ça c'est bon, voilà. Il y a 15 jours, Benoît, vous vous êtes lancé dans un programme de réhabilitation de la petite maison dans la prairie à l'occasion du 45e anniversaire de la création de cette série culte. Et vous nous aviez laissé, en toute fin de chronique, en plein suspense, affirmant, je vous cite, que la petite maison dans la prairie était même une série, attention gros mot, communiste.
Effectivement, La petite maison dans la prairie est une série qu'il faut redécouvrir, Xavier. Elle est en réalité beaucoup plus étonnante que la caricature.
On a une vie, hein, Benoît, excusez-nous. Voilà.
Oui, oui, mais à l'heure où la pop philosophie ne cesse d'analyser Lost ou Game of Thrones, par exemple, j'inviterai volontiers les philosophes à se pencher sur La petite maison dans la prairie, qui met par exemple en avant le philosophe Ralph Waldo Emerson. Elle en fait même un personnage dans la série, qui est un philosophe et qui a été remis au goût du jour dans les années 70, au sein notamment des mouvements de la Beat Generation. La série défend l'idée d'ailleurs d'une reconnexion de l'homme à la nature et de l'amitié entre les peuples. Une série pacifiste, humaniste.
On l'a compris, La petite maison dans la prairie tend un miroir engagé sur son époque. Mais voilà, on est bien d'accord, Ariane. Revenons sur le mot qui fait débat. Communiste, vraiment.
Oui, La petite maison dans la prairie défend, quand on regarde bien, l'idée de la communauté contre l'individu égoïste. C'est un véritable communisme au sens chrétien du terme, pas uniquement. Dans un épisode de la saison 2, on fête à Walnut Grove le centenaire de la naissance des États-Unis d'Amérique. Et c'est à ce moment-là qu'une famille russe qui a fui le tsarisme arrive dans le village. Et si dans cet épisode on vante l'esprit de liberté américain, le russe à barbichette, qui, l'action est située quand même à la fin du 19e siècle, qui quelques années plus tard aurait sans doute pris part à la révolution de 1917, donne une petite leçon aux villageois américains. Ces derniers, en fait, rouspètent contre la multiplication des taxes et l'augmentation des impôts. Et voici ce qu'il leur répond. Écoutez.
Vous devez être bienheureux vivre ici. Ce pays est un beau pays. Je sais parce que je vois beaucoup d'autres pays. Je sais différence. Ici, vous avez liberté, par exemple, liberté culte, liberté de vous réunir, liberté parole et liberté de presse. En Russie, nous payons 2 ou 3 fois plus d'impôts qu'ici. Et pas pour construire écoles et routes, non. L'argent va dans la poche du tsar. Moi, dans mon pays, je paie impôts. Mais le percepteur, un jour, il croit que je veux cacher quelque chose. Alors les Cosaques viennent. Ils ne me disent pas pourquoi, mais ils me prennent tout ce que j'ai. Ils nous chassent de notre terre avec seulement les vêtements que nous portons.
Alors en réalité, tout est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît dans la petite maison dans la prairie, mais ce qui est certain, c'est que la série part en guerre systématiquement tout au long de ses saisons contre le capitalisme triomphant, plutôt même anti-riganienne, la petite maison dans la prairie. La série met en avant le petit peuple qui s'oppose régulièrement aux puissants, aux géants manias de l'industrie, qui s'enrichissent sur le dos des petits paysans. Chez les Ingalls, on est plus proche de José Bové que de Reagan. Si, si, je vous renvoie sur plusieurs épisodes, celui où on découvre que Charles Ingalls est leader d'un syndicat agricole, celui où Caroline lutte contre l'impérialisme des fast-food. Il y a l'équivalent d'un Ronald McDonald au faux air d'un barbichu de KFC qui tente sa chance à Walnut Grove et il va se faire rembarrer par la famille Ingalls. Bon, zut, je vois que le générique de fin de ma chronique démarre. Je n'ai donc pas le temps de parler du tout dernier épisode de La Petite Maison dans la Prairie qui est un cas d'école. Tant pis pour ça, j'irai en parler dans le 5-7 de Mathilde Munoz. Parce qu'après ces deux chroniques en forme de 2 parties, j'avais envie d'un spin-off, Xavier.
Qu'est-ce que vous êtes doué, Benoît. Donc je vous le rappelle, hein, pour ceux qui seraient partis sur la Lune, La Petite Maison dans la Prairie était la grande série communiste des années 70 à
anticapitaliste,
la américaine. Merci beaucoup, Benoît. Et c'est l'heure de notre 3e débat American Horror Story, saison 9, sous-titré 1984. On va rappeler que American Horror Story, c'est une production Ryan Murphy. Nous avons parlé la semaine dernière de The Politician, sa toute nouvelle production sur Netflix. Une série d'anthologie, c'est une série qui chaque année recommence sur un postulat d'écriture identique, une nouvelle saison totalement indépendante de la précédente. American Horror Story, vous l'avez compris, c'est un hommage aux choses un peu terrifiantes. Nous n'avons vu à ce jour que les 2 premiers épisodes. C'est diffusé sur Canal+. Alors, dans les saisons précédentes, on a eu une maison hantée, un asile psychiatrique, une école de sorcières, un hôtel squatté par des vampires, un cirque diabolique. Et nous voici en 1984. George Orwell prédit. C'est une année terrifiante. Rappelez-vous, Ronald Reagan est au pouvoir. Jane Fonda fait de l'aérobic à la télévision.
Télé. Ouais, oui.
Les vestes ont des épaulettes de 15 cm de hauteur. Et Piaz Adora chante ça à la radio. And when the rain begins to fall, you ride my rainbow in the sky, and I will catch you when Bref, you fall. 1984, l'année de tous les dangers, on en tremble encore. Les dialogues. C'est surtout ça, c'est la force de la série, on est d'accord. Hein.
Come on, let's go for a walk.
Alors au menu de ce steak tartare servi hyper sanglant, un camp de vacances, évidemment, théâtre 14 ans plus tôt, évidemment, d'un massacre dont évidemment nul ne réchappa, et réouvert par une directrice ultra coincé et super réac, deux serial killers pour le prix d'un, des fantômes et une bande d'ados dont le cerveau a définitivement migré dans la culotte. Bref, une série hommage à tous les grands films gore des années 80, comme Vendredi 13, Halloween, les Griffes de la nuit,
sorti cette année-là, absolument.
Absolument. Alors, ce bain de sang, on y fait trempette ou on n'y fait pas trempette? Je crois que ça a provoqué votre enthousiasme, cher Avakaen.
Tout à fait, des cris et du sang, c'est la saison 100% slasher, et c'était les années 80.
Slasher, pareil pour les
Oui, alors, c'est les coups de couteau, évidemment, voilà. c'est le gore, c'est le bain de sang,
la machette,
tout à fait,
voilà.
C'est Massacre à la tronçonneuse, jusqu'à Scream. C'est ça, c'est les cris, le sang et...
Sorti du contexte, Benoît, c'était parfait.
Et alors là, on n'est pas seulement dans le fanservice, hein, c'est vraiment plus fort que ça, on joue à fond la carte du vintage. On est pour moi dans du fétichisme joyeux, limite orgasmique. C'est un genre de Stranger Things, mais pour adultes, parce que Stranger Things, c'était plutôt les Goonies. Là, voilà, c'est plutôt Carpenter, Vendredi 13, évidemment, Halloween. On y fait référence en permanence. Là, on a une sainte trinité quand même, puisque c'est les années 80, c'est les mini-shorts, la sueur et la coupe mulet. Et ce générique absolument formidable, un générique mais savamment conçu, avec, comme vous le disiez, Ronald Reagan, et puis des éclaboussures de sang comme ça sur la télévision. Et puis, il y a un contexte aussi que la série n'oublie pas, c'est que ça se passe pendant les JO. Il y a les JO qui se déroulent à Los Angeles, voilà, et ça, la série y fait bien référence.
Et parmi les comédiens,
Jim Aerobic, absolument,
il y a
un champion
sportif.
Un médaillé, effectivement. Alors, il y a une réplique qui dit « Traumas are a bitch ». Désolée, je l'ai dit en anglais, mais c'est tellement délicieux, mais les traumas sont des...
Beach,
voilà.
Des gens peu
mais ça résume bien l'ambiance, effectivement, puisque c'est l'été de tous les traumas. Et on retrouve au casting cette extraordinaire actrice qui est Emma Roberts et qui était déjà dans Scream Queens aussi. Et donc voilà, la reine du cri.
C'est une actrice fidèle de Ryan Murphy.
Tout à fait. Ça. Et il y a une filiation, évidemment, avec Jamie Lee Curtis. Mais une certaine filiation.
À la question quand même primordiale.
Elle fait la nunuche.
Est-ce que... Merci.
Pardon.
Je vais reprendre. À la question primordiale, est-ce que ça fait peur? Parce qu'on a compris les références.
Ça fait peur, bien sûr.
Vous l'avez très bien cité, mais est-ce qu'on tremble?
On tremble et on rit.
Alors Benoît, lui,
on tremble pas vraiment, on rit beaucoup en revanche. On rit beaucoup, moi c'est ça que j'ai aimé finalement dans ce que j'ai vu, parce que moi je suis pas très très fan de cette anthologie qui nous propose de jouer avec l'horreur, parce que moi j'aime pas trop sursauter en général, donc j'aime bien quand la série m'apporte autre chose. Là, moi la question qui... Bon, on a vu que deux épisodes, hein. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que cette série me raconte de plus que juste m'amuser avec les années 80 et les shorts et de revoir Will Schuster, le prof de chant de Glee, avec quelque chose dans le short qui est immense, voilà, qu'on ne voit
qui
pas.
Provoque l'admiration et la jalousie des autres personnages.
On
est d'accord.
En fait, de repenser à Véronique et Davina et à Jim Tonic, voilà, version américaine, bon, voilà, très bien tout ça. Mais qu'est-ce que cette série me raconte? Je ne sais pas. En revanche, elle me fait beaucoup rire. Et puis, il y a quelques clins d'œil aussi pour les sériephiles qui connaissent les sitcoms des années 80. On y évoque Cheers, on y évoque Three's Company. Et c'est des séries qui ont marqué les années 80 que nous, on ne connaît pas forcément. Et du coup, ça donne envie, je pense, que pour le fan de série, d'aller voir à quoi ressemblent ces sitcoms de l'époque. Non, c'est plutôt comme toujours avec les séries de Ryan
c'est
Murphy,
réjouissant
et plaisant. Après, est-ce que c'est un coup de couteau pour rien? Voilà, j'attends de voir plus.
Je pense qu'on en a pour notre argent.
Je peux même aller plus loin, un coup de couteau dans l'eau pour citer Polanski, par exemple.
Un coup de couteau dans le cœur. Voilà.
Moi, je suis assez d'accord avec Benoît. Je ne vois pas, pour l'instant, au bout de deux épisodes, hormis le plaisir que nous avons tous pris, la finalité, la direction prise, parce qu'on connaît déjà les serial killers. On risque pas d'avoir un Whodun It ou une espèce de révélation comme dans Scream, par exemple. Donc.
Mais
voilà.
C'est cette bande un petit peu queer qui fonctionne.
Le Scooby Gang, quoi.
Le problème de American Horror Story, c'est que c'est plaisant pendant quatre épisodes. Et le nombre de séries et de saisons, je n'ai pas fini parce que j'étais un peu indifférent à tout ça. J'ai peur que ce soit le cas. Mais Ariane, vous allez peut-être me convaincre.
Non, parce que je pense comme vous. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé la mise en place plutôt rigolote, plutôt jubilatoire. Il y a quand même un petit côté, évidemment, vintage. Même la couleur, l'image, elle joue là-dessus, notamment le générique.
C'est très référencé, c'est
très
érudit.
Il y a plein de synthés, il y a plein de tubes de l'époque des années 80, donc Bananarama et compagnie, tout ça. Donc le premier épisode, ok, sympa. Bon, on se dit que c'est quand même très très copié-collé avec des scénarios qu'on connaît super bien, comme Vendredi 13.
C'est un patchwork. C'est
moi,
vrai.
Je ne suis
la
pas John Carpenter parce qu'on n'est quand même pas au niveau réalisation du tout dans le même truc. Mais c'est vrai que la caméra subjective, on l'a. Enfin, tous ces trucs, parce que nous, on connaît, mais je ne suis pas sûre que tous les auditeurs connaissent. Donc c'est vrai qu'il y a des tas de références qui sont rigolotes.
John Carpenter, c'était Halloween.
Voilà, et Halloween, c'est la scène d'ouverture d'Halloween, c'est
une scène absolument
tellement culte. Mais... voilà. Bon. Donc tout ça est sympathique. Et puis quand on arrive au deuxième épisode, on dit bon, mais finalement, on est en terrain balisé, c'est super. Mais qu'est-ce qui va se passer de plus, quoi? Et moi, j'ai trouvé qu'il ne se passait pas grand-chose de plus. Qu'on retrouvait les mêmes genres de personnages. Avec la... Moi, j'appelle ça la nunuche. Toi, tu l'appelles, je ne sais plus comment. Moi. L'ingénue. Voilà. On sait que peu ou prou, c'est elle qui va être la dernière à être, en tout cas...
comme dans Scream.
Comme dans Scream, voilà. Voilà. Il y a juste peut-être une toute petite tension autour du personnage de la directrice de colo, parce que c'est elle la survivante du massacre précédent 14 années auparavant, et qu'on peut se dire qu'éventuellement, comme dans Vendredi 13, ce sera peut-être la femme qui sera la psycho killer. On ne sait pas. Donc ça, ça peut éventuellement être sympathique. Je trouve que c'est un peu trop de premier degré. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de code bougé.
Non,
je trouve, franchement, moi, j'ai trouvé ça un peu poussif au bout d'un moment.
Réponse dans 10 épisodes, la série en fait 12 ou 13 de mémoire, American Horror Story sur Canal+. Cette saison est intitulée 1984.
Everybody's looking for some.
Voilà, c'était Sweet Dreams, qui était la bande originale du film 1984, sorti à la même date. À l'époque, c'était Eurythmics qui interprétait ce chef-d'œuvre absolu. Marilyn Manson l'a repris. Mmh. Et c'est à son tour un chef-d'œuvre absolu.
France Inter. Une heure en série.
Alors, le petit conseil littéraire de la semaine est en rapport, évidemment, avec la série dont nous venons de parler, American Horror Story 1984. C'est intitulé Elena, c'est signé Jeremy Fell, c'est chez Rivage Poche. Kansas, un été caniculaire, plus caniculaire que jamais, une jeune ado au volant de la voiture de son père tombe évidemment en panne au milieu de nulle part. Elle est recueillie par une famille bien moins innocente qu'en apparence et elle devient la proie, bien malgré elle, d'un jeune tueur aux tendances psychopathes. Bref, comme pour American Horror Story, c'est un hommage au genre pur, revisité par la plume acérée d'un jeune auteur français. C'est pour ça que je voulais vous signaler la sortie de ce livre chez Rivage Poche, jeune auteur français qui connaît ses classiques sur le bout des doigts ou sur le bout des lames, presque, j'ai envie de dire, et qui en joue de manière effroyablement efficace. C'est flippant, c'est glaçant. Ça s'appelle Elena, signé Jeremy Feld chez Rivage Poche. Et il est l'heure du plateau télé. Nous avons déjà parlé de trois séries que nous avons quand même grandement recommandées. Mais je vous laisse maintenant ajouter votre pierre à l'édifice et nous dire ce que vous conseillez à nos auditeurs. Ariane Allard, votre mission, si toutefois vous consentez à l'accepter, serait de faire tenir ce conseil en moins d'une minute. Voilà, ne me regardez pas avec des yeux
je
du
vais
genre.
Tenter, mais là vous me désespérez d'emblée là. Voilà, donc moi je voulais vous parler d'une série qui est diffusée depuis un petit moment déjà sur Netflix, mais elle vaut vraiment la peine d'être revue, c'est Godless. C'est une série qui va vous plonger dans l'Ouest américain des années 1880. Le pitch, très rapidement, c'est la quête d'un personnage qui s'appelle Frank Griffin, qui est alors la loi à peu près psychopathe, qui traque son ancien partenaire, qui en fait était autrefois son fils adoptif, et qui est devenu désormais son ennemi définitif. Alors quand je vous dis ça, bien sûr, ça fait très classique, on se dit, bon voilà, on l'a déjà vu mille fois. C'est la Bible et le fusil, hein, les deux motifs principaux. En même temps, on sait bien que les États-Unis, c'est le territoire qui a été élu par Dieu, puisqu'il a été créé par Dieu, hein, tout le monde le sait, et que surtout le West End raconte la genèse de cette création. Donc on est en plein dedans. Sauf que, et c'est pour ça que je le trouve beaucoup plus intéressant que ça, c'est qu'il se permet aussi, ce West End, ce nouveau West End, d'inventer sa propre mythologie. En l'occurrence, la quête de Frank Griffin, elle va l'amener, le vilain Frank Griffin va être amené à visiter, enfin, à rentrer dans une ville minière qui s'appelle La Belle, et cette ville minière est régie exclusivement par des femmes. Alors pourquoi ? Parce que simplement, comme c'est une ville minière, il y a eu un accident dans la mine qui a tué des années auparavant tous les hommes valides, puisqu'en l'occurrence, il ne reste plus que quelques vieillards et quelques garçons. Et comme ces femmes sont des pionnières, elles vont prendre les choses en main et de façon très affirmée et très intéressante. Ça va nous permettre surtout de croiser une galerie de personnages féminins qu'on ne croit jamais dans le western. Je donne juste deux exemples. L'ancienne prostituée est devenue l'institutrice de la petite ville et elle vit en couple avec l'ex-femme du maire qui a décidé de porter littéralement la culotte puisqu'elle s'habille en garçon. Alors, cette série a été présentée comme une série féministe. Je tiens quand même à rassurer les gens qui adorent le western. C'est pas une série féministe. Ça a été vendu comme telle. L'histoire de la ville minière régie par des femmes reste quand même incidente à la trame principale qui reste essentiellement masculine. C'est bien une quête et c'est bien un antagonisme entre un père et un fils. Donc on est vraiment dans les bases du western tel qu'on l'aime aussi. Il faut bien le dire. C'est magnifiquement filmé. Ça a été écrit par Scott Frank, qui est un scénariste très connu à Hollywood, qui a écrit notamment Minority Report de Steven Spielberg, et notamment Hors d'atteinte de Steven Soderbergh. Pourquoi je cite Soderbergh ? C'est parce qu'il est producteur exécutif du show, que c'est quelqu'un qui a toujours adoré manier, manipuler, chahuter les genres, et que très honnêtement, je trouve que le western, ou en tout cas ce nouveau western, lui réussit parfaitement.
Vous nous avez donné particulièrement envie de voir ou de revoir Godless, toujours sur Netflix. Benoît Lagan.
Oui, moi je pars sur la quatrième saison d'une série qu'on aime depuis 3 ans, This Is Us. This Is Us, mélodrame.
Le mouchoir en papier que voilà. J'ai éprouvé en regardant This Is Us. Mais c'est une montagne à côté, on pleure tout le temps.
Pour ceux qui n'auraient jamais vu This Is Us, moi pendant 3 ans, je me suis interdit de raconter le premier épisode, qui pourtant est important pour installer la série, parce que c'est l'histoire d'une famille, les Pearson. Aujourd'hui, je peux me permettre. C'est une histoire d'une famille, les Pearson, sauf que la série commence et on ne sait pas trop quel lien de parenté ont tous ces gens qui fêtent leur 36e anniversaire. C'est comme ça que la série commence, par un anniversaire, plusieurs personnes dans des endroits différents de l'Amérique. On finit par découvrir à la fin du premier épisode qu'ils sont liés, qu'ils sont de la même famille, et depuis, Eh bien, depuis 3 ans, on suit la vie de cette famille à travers le temps. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, mais grâce au flashback, on voit aussi la vie des parents jeunes. Et plus ça avance dans la série, plus on voit aussi la vie, peut-être, des futurs enfants. Aujourd'hui, on arrive à la saison 4, et c'est ce qui est plutôt malin, c'est que la série reprend, se remet les compteurs à zéro en nous injectant de nouveaux personnages, et tout le premier épisode de cette saison 4 commence comme le premier épisode de la saison 1, avec de nouveaux personnages, et on ne sait pas trop quel lien ils vont avoir les uns avec les autres, et on replonge complètement dans le mélodrame. C'est très agréable. This is us, c'est nous, mais c'est aussi l'Amérique. This is US, et c'est pour ça que c'est malin, parce qu'au fil des 6 saisons de la série, parce qu'il va en compter 6, les showrunners ont dit qu'il y aurait 6 saisons, on aura eu l'histoire de l'Amérique vue à travers une famille et leurs amis, et c'est vraiment flamboyant.
Vous nous rappelez la chaîne de diffusion,
s'il vous plaît. This is us, c'est sur Canal+, et Canal+ série qui diffuse chaque épisode, chaque semaine, au rythme des Américains.
C'est une merveille absolue. La semaine dernière, Charava, nous n'avons pas été, en tout cas la table n'a pas été très favorable à une série qui est diffusée sur France Télé / Zérostérone, que j'avais vendue comme une série féministe. Marjolaine Boutet m'a dit « vous n'avez rien compris », mais peut-être viendrez-vous défendre un tout petit peu Zérostérone.
J'ai entendu attentivement l'émission la semaine dernière, effectivement, et c'est super d'avoir un droit de réponse. Alors effectivement, c'est une web-série dystopique, et mes camarades lui ont reproché d'être trop électique, de manquer d'incarnation et d'écriture et d'avoir un discours finalement contre-productif, voire anti-féministe. Je rappelle donc que c'est une série faite pour Slash TV qui a vocation à être vue sur son téléphone portable, un produit de consommation rapide mais pas du tout indigeste. Et le format participe de la précipitation des événements et des intrigues. Je rappelle rapidement de quoi ça cause. Ça fait 108 ans que les hommes ont disparu de la surface de la Terre. L'humanité survit grâce aux femmes et aux dernières banques de sperme. Chaque femme a l'obligation d'être inséminée et c'est au tour de Lucie qui se rend à sa convocation à la JAPP, à contre-cœur, accompagnée par sa sœur Charlie. Sur le chemin, elles sont prises en otage par une fugitive et qui part à la recherche, elle, du dernier homme. C'est un programme original, c'est un programme audacieux, intrigant, truffé de bonnes idées, malgré les petits moyens dont la série dispose. Le discours est très clair, c'est celui de l'éternel retour, ce mythe nietzschéen, la vision cyclique du monde où tout ce qui est déjà arrivé arrivera encore, où tout ce qui est arrivé arrive. Et ce que la série montre, c'est comment des femmes continuent de se comporter même sous un régime matriarcal, comme elles se sont comportées finalement des siècles plus tôt. On n'efface pas le passé comme ça, tout simplement. Donc c'est l'idée du déterminisme qui travaille cette série. L'histoire est certes tronquée, mais en mouvement. On est pris dans une cavale, une chasse à la femme. Cette femme, c'est une pirate, donc c'est ce que je disais. Et c'est un personnage assez fascinant, assez passionnant, même s'il y a des petits défauts, des petites maladresses d'écriture, même s'il y a des petites maladresses d'interprétation. Je trouve que globalement, c'est une série intéressante. Et puis de voir la jeune génération se rebeller, une série faite par des femmes, pas que pour des femmes, c'est à voir.
Voilà. Merci, chère Avakel.
Et c'est plein de bonnes vannes.
Oui.
Je fais un petit sommaire récapitulatif de l'émission. Donc, côté plateau télé, Ariane Alla vous recommande Godless sur Netflix. Benoît Lagan vous supplie d'aller voir les 4 saisons et je l'accompagne dans ce sens de This Is Us. Et Avakel vous propose d'avoir un œil plus bienveillant sur Zérostérone. Nous avons parlé cette semaine, je vous le rappelle, de Criminal sur Netflix, qui a eu plutôt votre adhésion, de Pour Sarah sur TF1, qui a été plutôt bien soutenu, et des ados sadisés de American Horror Story 1984 sur Canal+, du sexe et de la violence. Évidemment, ça vous a plu. La semaine prochaine, nous parlerons des séries Mytho sur Arte, The Victim sur France 2, et Twilight Zone, leur retour sur Canal+. Une émission que je vous invite à réécouter en podcast. Il y a un site internet, vous pouvez nous envoyer du courrier. Merci à vous trois d'avoir participé aussi brillamment, intelligemment et docilement à l'émission.
Tellement bien
en écoutant
orchestré.
Jamais ce que je dis, c'est extrêmement
tellement
agréable
bien orchestré.
D'être aussi inutile.
Mais vous le faites tellement bien.
Fayette. Voilà, l'émission était réalisée comme toujours par Marie-Annie Crimbaud. Mille merci. La programmation musicale formidable comme toujours, Muriel Pérez, est préparée avec l'extraordinaire Amel Kaldi. Elle m'a demandé de le dire, donc voilà. Je suis un petit peu obligé. À la technique aujourd'hui, Élise Christophe.